Alors aujourd'hui, il est prévu que je parle d'Augustin d'Hippone et de Julien de Tolède. Mais je fais avant cela un petit détour par Grégoire de Nice, qui n'était pas prévu au programme, j'ai souhaité l'ajouter. Alors, Grégoire de Nice, vous avez les dates sur vos feuilles. Je ne vais pas présenter toute sa pensée. Il a écrit un traité de l'âme et de la direction qui a été traduit par Bernard Pottier récemment. Ça vaudrait la peine de l'étudier. Et alors, il n'y a pas que lui qui a écrit un traité de la résurrection, il y en a beaucoup. Mais je voudrais parler chez lui de ce qu'on appelle l'épectase. Et avant de parler de cela, je vais vous dire une petite chose. C'est que quand même, Grégoire de Nice parle de l'âme, de la purification après la mort et de la résurrection. Alors que dit Grégoire de Nice sur l'épectase? Il dit, dans l'union à Dieu, déjà dans cette vie, il pourrait sembler que le désir de l'âme est enfin comblé. Enfin, nous avons ce que nous voulions. Et Daniel Loup, qui a travaillé la question, surtout Grégoire de Nice, dit ceci: la jouissance des biens de l'âme ne fait qu'augmenter la soif de Dieu. Peu à peu, il s'en dégage une loi, l'âme découvrant qu'il est de l'essence même de la vie spirituelle d'être un progrès continuel, et que, si paradoxal que cela puisse paraître, la perfection est un continuel progrès. Alors Grégoire de Nice s'exprime de la sorte dans son Cantique des Cantiques, vous avez l'hésitation sur les feuilles. Ainsi tous ceux en qui le désir de Dieu a pénétré profondément n'ont jamais arrêté de le désirer, transformant tout ce qui leur venait de Dieu pour jouir du bien-aimé, en matière pour allumer un désir plus ardent. Ainsi là, maintenant uni à Dieu, ne connaît plus de satiété à sa jouissance. Plus abondamment elle est remplie de jouissance, plus ardent se fait la force de ses désirs. Et Danilo commence cela, il dit, il y a là une loi de toute vie spirituelle. C'est un caractère essentiel, l'union à Dieu, justement, que de se présenter comme une nouveauté perpétuelle. Trop souvent, nous pensons le ciel comme la chose qui, à la fin, c'est quand même assez lassant. Grégoire de Nice, justement, dit le contraire. Plus encore, il y a une croissance qui est proportionnelle à l'union à Dieu, qui est justement de l'ordre d'un renouvellement constant. Et donc, on peut comparer la vie spirituelle à une ascension, à une échelle. Dans sa vie de Moïse, Grégoire explique encore ceci: la beauté se manifestant toujours davantage, le divin s'accroît dans la même proportion que le progrès, et à cause de la surabondance des biens qu'elle découvre toujours dans l'ordre surnaturel, il lui semble qu'elle n'en est qu'au début de sa progression. Et donc l'âme est en même temps à la fois comblée et assoiffée. Dans le traité de la résurrection, Grégoire de Nice dit la même chose. Je vous laisserai le lire. Et donc ce qu'il dit déjà de la vie ici s'applique aussi à la vie après la mort. Je cite ici Grégoire: l'âme s'élève toujours davantage au-dessus d'elle-même, tendue par le désir des choses célestes vers ce qui est en avant, comme dit l'apôtre, et son vol l'amènera toujours plus haut. Le désir qu'elle a, en effet, de ne pas se contenter de ce qu'elle a acquis pour renoncer au sommet de la vie lui communique un mouvement ascensionnel qui n'a pas de cesse, qu'elle trouve toujours dans ce qu'elle a réalisé un nouvel élan pour voler plus haut. Dans la citation avant, Grégoire disait comme ceci, je vais dire quand même, deux choses s'accroissent l'une par l'autre. La puissance nourrit s'accroissant par l'abondance des biens, et la ressource nourrissante débordant à mesure que s'accroissent les biens augmentés. Donc, on voit bien, il y a une ascension vertigineuse qui se fait, une montée sans limite, un progrès spirituel continué, un dépassement perpétuel. Et on appelait cela l'épectase. C'est bien du grec, épeptainomen, méné, pardon, qui s'est traduit par tendu. Dieu est infini en actes, tandis que l'âme est infinie en devenir. Sa divinité, c'est de se transformer en Dieu. Donc, on comprend pourquoi, dans cette perspective, le progrès est constitutif de l'âme même. En effet, si elle est un infini en devenir, la création doit pour elle prendre nécessairement la forme d'une croissance, sans quoi elle serait simplement finie. Ça, c'est la caractéristique du monde matériel. Ainsi, la grâce, qui est cette perpétuelle adjonction de bien nouveau, c'est précisément l'épectase qui la maintient toujours tournée vers un au-delà d'elle-même. Et donc, conclut Danilou, l'épectase est la condition même de l'âme. Si cela vaut pour la vie spirituelle, mais ça vaut aussi dans la vie éternelle. L'éternité n'est pas une contemplation immobile, mais pour les bienheureux, une progression continuelle. L'âme ira se transformant à jamais en Dieu, sans jamais pouvoir l'égaler, découvrant à jamais en lui de nouvelles splendeurs qui s'effacent devant d'autres splendeurs qui leur succèdent. Ça, c'est quand même beau. Donc, il s'agira d'un émerveillement chaque fois de plus en plus intense. Et vous comprenez que Grégoire conjugue ici, heureusement, la participation de l'homme à la gloire de Dieu et l'infinie transcendance de Dieu. Je passe à Augustin. Alors, Augustin, l'œuvre est gigantesque et je n'ai pas réussi à tout lire pour le cours. Oui, on peut être choqué, mais... Donc, je me suis limité à la cité de Dieu. La pensée d'Augustin est toujours en mouvement. On le voit bien dans les confessions, c'est comme Origène, c'est en mouvement. Il cherche la vérité, il la précise. Il a écrit un livre de rétractation pour se corriger, s'amender. Et dans la cité de Dieu, eh bien, nous avons une œuvre qui est intéressante pour plusieurs raisons dans cette matière-ci. J'en donne quatre. La première, c'est que le sujet qui nous intéresse se trouve spécialement dans les derniers livres. C'est vraiment le sujet de ces livres-là. Et ces livres, le dernier de ces livres a été écrit en 427, soit 3 ans avant la mort de saint Augustin. La deuxième raison, c'est que c'est l'un des lieux où Augustin en parle le plus longuement. Troisième raison, dans les rétractations, donc Augustin parle de la cité de Dieu, et il dit plusieurs choses. À propos des corps ressuscités, il dit que ces questions étaient bien mieux traitées dans la cité de Dieu. À propos de l'incorruptibilité des corps ressuscités, il dit, on trouvera une dissertation aussi complète que j'ai pu la faire dans mon dernier livre de la cité de Dieu. À propos de la vision de Dieu, il dit qu'on en a parlé de cette matière très difficile, justement, dans le dernier livre. Et la quatrième raison, c'est que sur ces 3 livres, dans les rétractations, il n'y a aucune correction. Voilà quelques arguments qui font que je m'appuie là-dessus, que c'est censé. Alors, prenons ce livre, qui est une œuvre immense, qui vaut la peine de lire. ardue aussi. Je vous lis ce que saint Augustin lui-même dit de ce livre. De ce livre, donc il y en a 22 total, les 5 premiers réfutent ceux qui voient dans le culte de la multitude des faux dieux, qu'honorent habituellement les païens, la condition nécessaire à la prospérité des affaires humaines, qui prétendent trouver dans l'interdiction de ces cultes l'explication de la naissance et de l'accroissement des maux actuels. Les 5 suivants sont dirigés contre ceux qui, tout en avouant que de tels maux n'ont jamais manqué et ne manqueront jamais aux mortels, et que tant aux grands, tant aux petits, ils varient selon les lieux, les temps et les personnes, déclarent pourtant utile le culte des faux dieux avec les sacrifices qu'on leur offre, à cause de la vie qui doit suivre la mort. Donc dans ces 10 livres, ce dont donc les opinions vaines et contraires à la religion, ce sont donc, pardon, les opinions vaines et contraires à la religion chrétienne qui se trouvent réfutées. Mais, pour ce Augustin, pour qu'on ne nous accuse pas d'avoir seulement combattu les doctrines des autres sans avoir exposé les nôtres, c'est cet exposé qui contient la seconde partie de cet ouvrage, qui est renfermée en 12 livres. De ces 12, les 4 premiers traitent de l'origine des deux cités, dont l'une est la cité de Dieu et l'autre la cité du monde. Les 4 suivants décrivent leur progrès et leur développement. Et les derniers montrent les fins qui leur sont tendues. Et donc, les 22 livres au total ont comme sujet l'une et l'autre cité, mais ils empruntent le titre de référence à celle qui est de Dieu. Alors, ces deux parties, ça c'est très important, parce que quand on a entendu cela d'Augustin, il faut souligner, comme il le fait, que les deux parties parlent et de la cité de Dieu et de l'autre cité. On ne peut pas appliquer la structure du livre comme si les 10 premiers c'était l'une, et puis la cité de Dieu seulement la dernière. Les 4 derniers chapitres, donc, sont vraiment tendus vers la fin. Donc, ils abordent les sujets suivants. Le premier, les deux cités et le souverain bien des hommes. Le 19e, donc, le jugement du Christ à la fin des temps. Le 21e, la séparation du mal. Le titre est intéressant, quand même. Le 22e, le bonheur éternel dans la cité de Dieu. C'est donc vraiment la poursuite du bien qui est posée. En fonction de ce bien, le jugement sépare le mal et accorde le bonheur à ceux qui ont poursuivi le seul et véritable bien qui est Dieu. Alors, je ne vais pas traiter du livre 19e, pardon, mais surtout seulement des 3 derniers. Donc, j'aborde dans l'ordre le jugement, la séparation du mal et le bonheur. Donc le livre 20, vous l'avez compris, est consacré au jugement dernier, jugement que le Christ prononce à la fin des temps pour l'éternité. Alors la réflexion de Augustin, elle part de l'Écriture et elle est lue dans la tradition de l'Église. Et Augustin reconnaît que le Christ reviendra pour juger les vivants et les morts. Ce jugement arrivera à la fin des temps, dernier jour. Et ce jugement montrera combien les actions, les jugements temporels de Dieu sont justes, même si aujourd'hui ils nous paraissent injustes. Alors, un éminent professeur qui se trouve ici au fond résume une spécialiste de la cité de Dieu. Dit ceci, le jugement dernier viendra lors de la résurrection des morts, à la fin du siècle, pour séparer les bons et les méchants. Les 12 apôtres et aussi tous les saints seront associés au jugement prononcé par le Fils de l'homme. La résurrection atteindra les corps et pas seulement l'âme. Donc, Augustin parle d'une double résurrection. L'une, selon la foi, par le baptême en cette vie, donc c'est celle de l'âme. L'autre, selon la chair, celle du corps. La la mort du corps envoie les uns dans la seconde mort, les autres dans la vie. Augustin profite pour réfuter le millénarisme. Qu'est-ce que c'est que ces 1000 ans? Eh bien, c'est ce qu'on avait déjà compris dans l'Écriture, c'est le temps intermédiaire, ce qu'on appelle aujourd'hui le temps intermédiaire, c'est-à-dire la période comprise entre les deux avènements du Christ. J'entends le premier, l'incarnation et la rédemption, le second, lorsqu'il reviendra dans la gloire. Moi, j'en ai parlé d'un troisième, qui est au milieu, en fait. Et ici, Augustin parle des deux autres, des deux extrêmes. Et pendant ce temps, les saints règnent avec le Christ dans un état de lutte spirituelle. Et l'Église, d'une certaine manière, les chefs de l'Église, en tout cas, gouvernent et jugent déjà le monde. Avant ce règne de 1000 ans, eh bien, doit venir une dernière persécution de la part de l'Antéchrist. Satan agira par lui pour une période de 3 ans et 6 mois, qui, il faut comprendre évidemment au sens symbolique. Et Augustin refuse de donner une identité précise à cet Antéchrist. Il n'est pas Néron, par exemple. Il voit plutôt en lui un séducteur. Et après les 1000 ans, donc, viendra le jugement dernier. Les livres de l'Écriture et de la vie de chacun seront ouverts. Alors, la mort rendra ceux qui détiennent, celles qu'elles détiennent, l'enfer aussi. Et tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. Pour les justes, une métamorphose adviendra, donc un monde nouveau. Et à ce moment-là, la Jérusalem descendra du ciel. Sa splendeur apparaîtra et les corps recevront l'incorruptibilité, l'immortalité, l'exemption de toute souffrance. Et il précise aussi, les saints encore vivants mourront pour ressusciter. Augustin précise les circonstances du jugement. La première, c'est la résurrection des morts. Ensuite, il parle de la séparation des bons et des méchants. Un fleuve de paix, de consolation, la vie éternelle pour les bons. Un feu dévastateur, l'opprobre, l'infamie éternelle pour les méchants. Troisième circonstance, c'est que ceux qui devront subir des peines purificatrices avant la résurrection des morts, les auront faites. Quatrième chose, la venue du jugement sera très soudaine. La venue du Christ et le jugement sont très soudains. Cinquième circonstance, Élie doit venir avant le Christ. Sixième, c'est bien Jésus, en tant qu'homme qu'il s'agit, qui viendra et qui jugera. J'aborde quand même avant la séparation du mal, les peines purificatrices, puisque saint Augustin en parle. Donc il croit qu'il existe des peines purificatoires. Il n'utilise pas le mot purgatoire. Donc, Pierre Perret dit ceci, éprouver devant la vie mortelle ou dans la vie éternelle, certaines peines sont purificatrices pour ceux qui, contraints par elles, se corrigent et croissent en vertu. Parmi les hommes, les uns souffrent les peines temporelles en cette vie seulement, d'autres après la mort, d'autres et durant et après cette vie. Avant toutefois ce jugement très sévère et le dernier de tous. Mais ne tombe dans les peines éternelles qui arriveront après le jugement que tous ceux qui ont... Pardon, je me suis emmêlé les pinceaux dans ma citation. Donc nous serons dans les pays que ceux qui auront... je passe. C'est pas ce que j'ai fait. Donc les peines en cette vie, il y aura des peines en cette vie, et après la mort, ceux qui ne souffrent pas ici souffriront ces peines après la mort. Mais Augustin dit, c'est très rare que quelqu'un ne souffre pas déjà ici-bas. Assez réaliste. Alors, la séparation du mal, ça c'est le livre 21. C'est la séparation de l'homme et de Dieu, laquelle définit le péché, est le malheur qui conduit l'homme à la mort. Lors du jugement, le Christ sépare la cité de Dieu de la cité du diable. Et donc, Augustin parle d'une peine éternelle. Et il se dit, mais comment est-ce que cette peine éternelle est possible? Il réfléchit à cela. Alors, de cette manière, c'est la question de l'éternité, de la peine qui est posée. Mais Augustin la pose d'une manière particulière, c'est comment est-il possible de souffrir sans mourir? Ça, c'est là vraiment la question qui se pose. Et il va réfléchir à cela. Et il dit, mais en fait, la douleur n'est pas une preuve de mort, mais un signe de vie. Effectivement, un cadavre ne souffre plus. Elle découle de l'incapacité pour l'âme de supporter la violence d'une grande douleur. Lors en enfer, qu'est-ce qui se passe? La seconde mort maintient malgré elle l'âme dans le corps. Et Augustin donne encore quelques autres explications. La douleur corporelle relève de l'âme et du corps. On souffre dans le corps, mais c'est la personne qui souffre. Donc l'âme aussi. Et donc il en vient à dire, la douleur du corps ne provoque pas la mort de l'âme qui est en soi immortelle. Donc la souffrance, pour lui, n'est pas une preuve nécessaire de la mort à venir. Et donc, eh bien, un corps est à même de souffrir sans plus mourir. L'autre question qui se pose, c'est en fait tout ce qui brûle meurt. Et là, Augustin prend divers exemples pour montrer qu'il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas le cas. Alors, d'où vient cette souffrance éprouvée par les impies? D'où vient ce châtiment? Il dérive du refus définitif de la miséricorde par le pécheur lui-même. Et à la question de savoir si une peine éternelle est juste, Augustin répond que le châtiment ne se mesure pas à la durée du temps, mais à la gravité de l'acte que l'homme en cette vie peine à saisir. Et plus encore, tous les hommes, à cause du premier péché et des péchés personnels, ont mérité la damnation dont justement le Christ nous sauve. C'est une chose qu'on oublie souvent, justement, c'est que l'homme a besoin d'être sauvé. Augustin refuse l'idée d'apocatastase, et quand il parle de peine purificatoire, il dit « Certains ont mal compris ce que je voulais dire ». Ce n'est pas la rédemption ultime du diable et de ses anges, pour détailler. Il dit que ça ne peut pas être le cas. Pourquoi? Parce que ça signifierait que la paix éternelle à laquelle on aspire est instable et qu'elle serait sans cesse menacée. Il faut que la paix soit vraiment donnée une fois pour toutes, si le mal est toujours là. Alors, Augustin réfléchit, comme d'habitude, de plusieurs manières. Le salut de tous les hommes serait nécessaire, soit après un châtiment temporaire, soit sans châtiment, mais le châtiment du diable, lui, est éternel. Et les hommes pourront y être associés, donc il réfléchit à partir de la réalité. Deuxième argument, l'Église ne prie pas pour eux, mais seulement pour les vivants et ceux qui recevront le pardon dans le siècle futur. En fait, pour Augustin, il n'y a pas d'opposition, c'est peut-être difficile pour nous à comprendre, entre la colère de Dieu, son jugement et sa miséricorde. Quand on les oppose, détient, c'est qu'il y a une chose que j'ai pas compris sur ce que c'est que vraiment le jugement de la part de Dieu, sa colère ou sa miséricorde. D'autres disaient encore, mais sont de toute façon sauvés ceux qui sont baptisés mais qui participent à la messe, ceux qui demeurent simplement dans l'Église catholique, ou bien ceux qui font les aumônes. Augustin avait dit non, que la réalité qui est donnée là soit vécue. Il dit la même chose autrement dans le traité contre les donatistes. Très intéressant de ce point de vue-là aussi. C'est-à-dire que les sacrements nous donnent la charité, et après il faut que je me l'approprie, que je la fasse mienne. Vous voyez ? Si cette charité n'est pas de là, il y a un problème. Augustin va encore dire qu'il faut bien distinguer entre le feu éternel et le feu qui purifie les personnes imparfaites. Et je termine par une citation de Pierre Ferret. L'enfer des peines éternelles n'est point une réalité étrangère à la miséricorde divine. Il témoigne de cette miséricorde en signifiant l'extrême malheur dont elle nous sauve. L'extrême malheur qu'il y a à s'y opposer. Concurremment, le souvenir de l'enfer et sa crainte durant la vie temporelle signifient le témoignage rendu par l'homme à l'amour de Dieu comme unique et suprême bonheur qu'il espère posséder. Voilà pour la séparation du mal. Maintenant, le bonheur éternel, c'est quand même plus drôle. Donc il y a une béatitude éternelle, on entend par éternel, qui n'aura pas de fin. Et cette éternité de la cité de Dieu ne sera pas due à la succession des générations, parce que tous seront immortels. Dieu lui-même sera la béatitude des élus, leur vie et leur nourriture. De nouveau, Augustin répond à plusieurs objections au sujet de la résurrection des corps. La première est d'ordre philosophique, elle concerne la nature des corps. Comment des corps terrestres, donc la matière, pourraient posséder et, ou accéder à l'immortalité? Et Augustin de répondre: l'élévation du corps est moins étonnante que le lien du corps avec l'âme. Autre argument, les apôtres ont parlé, ont cru en la résurrection, en ont témoigné. Eux qui étaient si faibles, si méprisables, dit-il, ils ont réussi à transmettre ça, ce qui atteste bien que la divinité est là. Donc elle a assumé la faiblesse. Et ils ont opéré beaucoup de signes. Il y a eu encore la mort des martyrs. Il y a d'autres objections auxquelles il répond qui concernent l'état des corps ressuscités. Qu'est-ce qu'il en sera s'il y a des corps qui ne sont peu développés, pas développés, qui sont divisés, dissous ou disloqués? Comment est-ce qu'on pense? Et Augustin répond de la manière suivante: chacun atteindra le développement parfait de son propre corps. Comme homme ou comme femme, chacun selon son sexe propre. Il n'y aura aucune infirmité. Tout défaut sera corrigé. Les corps obtiendront la mesure de la plénitude de l'âge du Christ. Alors, cette affirmation-là, on peut la comprendre de deux manières. La première, c'est qu'ils seront conforme à l'image du Fils de Dieu, c'est-à-dire immortel. Avec cette précision, c'est que les martyrs vont laisser voir leurs blessures. Pourquoi? Parce qu'elles témoignent de la gloire de Dieu. Et donc elles ne seront pas difformes. Les corps seront soumis à l'Esprit et vivifiés par lui. Il n'y aura plus besoin d'aliments. Les corps seront agiles, immortels, incorruptibles, spirituel. Ça, c'est la première manière de comprendre l'âge du Christ, on voit, c'est conforme au Christ ressuscité. La deuxième manière, c'est le corps du Christ en tant au niveau social, corps de l'Église. C'est l'attente que le corps de l'Église prenne toute sa dimension, que tout le monde soit intégré, cette plénitude-là. Alors, Augustin essaie d'expliquer quels sont les biens éternels. Il dit que c'est quand même difficile d'en parler faute d'expérience, puisque c'est ce qui vient. Et donc, pour en parler, il commence à considérer la beauté et la grandeur des biens terrestres. Il regarde ce qui est déjà beau et grand ici, pour imaginer les biens célestes, qui possèdent évidemment ces qualités, à un degré bien plus éminent. Et donc, il va décrire beaucoup de choses de la création. J'en donne quelques-unes, la beauté du corps, l'agilité de la langue, l'harmonie des parties, le ciel, la terre, la mer. Et Augustin dit ceci, « Et pourtant, ce ne sont là que consolations de misérables condamnés, et non récompenses de bienheureux. Quelles seront-elles donc ces récompenses, s'il y a aujourd'hui tant de magnificence dans les consolations ?» Une belle faute d'orthographe là. Qu'est-ce que Dieu donnera donc à ceux qu'il prédestine à la vie, s'il donne tant ici-bas à ceux qu'il a destinés à la mort? De quel bien ne doit-il pas combler dans la vie bienheureuse? Donc on voit bien que là, il contemple. Les deux derniers chapitres du livre 22 traitent de ce que les saints feront dans leur corps immortel et spirituel. Quelle sera leur action? Il y a une quiétude, un repos. Qu'est-ce que c'est que ce repos, cette quiétude? Ils vivront, dit-il, dans la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Ils verront Dieu face à face, comme des anges, tels que Dieu est. Et puis il réfléchit, est-ce que les yeux de notre corps vont voir Dieu? C'est une question intéressante. Alors, tout d'abord, la vision sera d'abord celle de l'esprit, qui pourra voir Dieu même les yeux fermés. Cependant, les yeux glorifiés, si on peut dire comme ça, auront une puissance tout à fait nouvelle. Et ils verront Dieu présent en toutes choses et les gouvernant, donc à travers la médiation du Créé. Dieu nous sera si clair et si connu qu'il sera vu d'esprit par chacun de nous, en chacun de nous, vu l'un dans l'autre, vu en lui-même, vu dans le ciel nouveau et la terre nouvelle, dans toute créature qui alors sera, vu même par le corps, dans tout corps, partout où les yeux spirituels du corps spirituel dirigeront leurs subtils rayons. Alors, quelle félicité! On ne se livrera plus qu'aux louanges de Dieu qui sera tout en tous. On se glorifiera sans lassitude. Le corps sera soudain là où l'esprit voudra être et il ne voudra rien qui ne convienne à l'esprit et au corps. En fait, Dieu sera la récompense. La communion aussi avec Dieu engendrera la communion entre les saints. Il y aura différents degrés d'honneur et de gloire qui seront en fonction des mérites, mais personne ne sera jaloux. Personne ne sera jaloux parce que tout le monde verra que c'est juste et sera d'accord avec cela. Donc ce sera vraiment l'équité, la justice. L'homme aussi sera parfaitement libre, il ne voudra plus pécher et il ne le pourra plus. Et les saints n'auront plus qu'une connaissance abstraite du mal, mais ils n'en auront plus l'expérience. Voilà pour Augustin. Je passe maintenant à Julien de Tolède. Cet évêque de Tolède, primat de l'Espagne d'alors, enfin de l'Empire Visigoth, est assez peu connu aujourd'hui. On pourrait dire que c'est la dernière œuvre théologique du premier millénaire qu'on va étudier et qui a une certaine ampleur. Donc, écrit en 688, donc 2 ans avant la mort de Julien. Le titre de l'œuvre, c'est qu'il a écrite Prognosticum Futuris Seculi. Je vais l'écrire parce que je vois que tu n'es pas mis au tableau. Je ne l'ai pas écrit dans la feuille. C'est écrit ? Ah, vous l'avez en bas, oui, voilà. Ah, très bien. Et donc, on peut traduire de la manière suivante ce que l'on peut savoir dès maintenant de la vie future. Cette œuvre est assez importante, même très importante, parce qu'elle est une pierre miliaire dans l'histoire de la théologie de fin dernière. On a de la chance aujourd'hui, puisque en 2010 et en 2012 sont parus respectivement une traduction anglaise et italienne du traité. On n'a malheureusement pas encore de traduction française. Alors, une place particulière et même charnière dans l'histoire de la pensée eschatologique chrétienne, pour trois raisons majeures. Son contenu, premièrement, sa forme, deuxièmement, sa diffusion, troisièmement. Au niveau du contenu, le Prognosticum est presque entièrement composé de citations de l'Écriture et des pères de l'Église. Mis à part les titres, le corps du texte, à quelques exceptions près, ne fait que nouer entre elles des citations scripturaires et patristiques. On peut se demander s'il a écrit lui-même. C'est vraiment l'essentiel de l'ouvrage. Donc, ce texte a toutes les qualités d'une anthologie. Elle reprend ce que les pères de l'Église ont affirmé. Et donc, au sens noble, c'est un véritable véhicule de la tradition de l'Église, aussi bien grecque que latine. Qui trouve-t-on ? Origène, Cassien, Cyprien, Chrysostome, Julien Pomère, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Grégoire le Grand, Isidore de Séville, Eugène de Tolède. Et dans ces citations des pères de l'Église, Grégoire le Grand et Augustin se taillent plus que certainement la part du lion. Et une fameuse part. Dans l'Écriture, le Nouveau Testament est presque deux fois plus cité que l'Ancien. Les psaumes, les évangiles, l'évangile de Matthieu, de Luc et de Jean, la 1 Corinthiens et l'Apocalypse sont les livres qui sont cités environ deux fois plus que les autres. Ça pour donner un peu l'idée de son contenu. Alors l'œuvre de Julien, ce n'est pas qu'une anthologie. C'est beaucoup plus. On peut dire que c'est le premier traité d'eschatologie, c'est-à-dire la première synthèse systématique, complète en tout cas pour l'époque, sur le sujet. Parce que la force de Julien, c'est d'avoir organisé les citations bibliques et patristiques de manière savante et intelligente en fonction de thèmes. De telle manière que ça devient un système théologique qui est bien confectionné. Et donc, l'originalité se trouve dans l'agencement des citations enrichies, des argumentations de Julien, que l'on voit surtout dans les titres des chapitres et dans les expressions de raccord des textes. Il fallait pouvoir organiser toute cette matière patristique et scripturaire. Donc c'est vraiment dans les titres qu'on découvre l'effort synthétique de Julien dans le Prognosticum. Et si on voit ces titres, leur agencement montre combien la pensée est devenue systématique. Donc il articule entre eux, l'un après l'autre, les thèmes qu'il pense devoir aborder. Chaque titre est soit une thèse, soit une question à laquelle il entend répondre. Et la démonstration est donnée dans le corps du texte, par l'Écriture et les pères de l'Église. Donc on a vraiment un système de vérité doctrinale, de caractère synthétique, je le répète, et pratique. Mais la forme est tout à fait nouvelle, c'est une forme de traité. Et donc, on peut dire que Julien est au début du mouvement du renouveau théologique et intellectuel médiéval, qui va aboutir aux grandes synthèses philosophiques et théologiques de la scolastique. Julien pouvait dire beaucoup de choses par lui-même, il le dit très clairement, mais il dit chaque fois « je préfère m'appuyer sur les pères ou l'Église quand ils disent quelque chose, pour vraiment montrer que c'est l'Église qui parle et pas seulement moi qui affirme une opinion ». Il ne veut pas faire avancer sa propre idée, mais transmettre ce que l'Écriture et les Pères affirment. Alors vous avez le titre et puis ce que les Pères de l'Église ou l'Écriture disent. Donc on pourrait avoir l'impression, quand on lit Julien, qu'il a une idée et puis il trouve tout ce qu'il peut pour justifier ce qu'il veut. Mais c'est mal de comprendre. Puisque les titres, en fait, sont la conclusion de sa recherche. Donc attention à la présentation formelle qui pourrait induire une idée fausse sur ce qu'il fait. C'est vraiment l'aboutissement, ces titres, de la pensée de Julien de Tolède. C'est vraiment l'étude de l'Écriture et des Pères. Il y avait une belle bibliothèque dans son palais archiépiscopal qui lui a permis de tout travailler. C'est vraiment l'aboutissement d'une pensée, d'une recherche théologique. Donc, premier dans l'ordre d'exposition, les titres sont derniers dans l'ordre de la genèse de la pensée. Et vraiment, Julien veut être fidèle à ce qui est transmis dans l'Église. Il est intéressant d'ailleurs de voir qu'il considère les pères de l'Église comme des majores. Et lui se désigne comme un minores. Donc ici Julien dit « Moi, je ne suis pas un père de l'Église. » Et donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il est un père de l'Église, même si on voit bien qu'il vient à la fin de toute une période patristique et qu'il assume. Troisième raison pour laquelle cette œuvre est importante, c'est sa diffusion. La manière dont il a été produit, transmis même, et reçu, montre qu'il est vraiment l'expression de la foi commune de l'Église sur le sujet dans l'Église espagnole à l'époque. Il était vraiment reconnu comme offrant une doctrine certaine de la foi en matière eschatologique. Et ça a été si bien que l'œuvre a traversé les Pyrénées, les Alpes et la mer. Elle est connue à Fulda, en Allemagne, qui est au nord de Francfort, à Francfort, à Saint-Omer, dans l'Oxfordshire. Le célèbre Alcuin, qui travaillait pour le Grégoire le Grand, qui était vraiment rigoureux, dit que c'est une œuvre exempte d'erreur. Au Moyen-Âge, on trouve 2 à 3 exemplaires de ce traité dans quasiment toutes les bibliothèques du 9e au 12e siècle. Et cette œuvre a été considérée comme un manuel irremplaçable d'eschatologie dans presque tout le Moyen-Âge. Donc il avait une autorité théologique considérable, précisément parce qu'il se nourrissait de l'Écriture et des Pères de l'Église. Pierre Lombard, Hugo de Saint-Victor ont largement utilisé cette œuvre pour faire leur partie eschatologique dans leurs synthèses respectives. Et quand on sait que les sentences de Pierre Lombard ont été commentées par tous ceux qui l'ont suivi pour pouvoir devenir théologiens, on voit un petit peu l'influence que Julien a exercée. C'était vraiment le commentaire des sentences de Pierre Lombard, une étape obligatoire dans la formation théologique. Donc Saint Bonaventure, dont on parlera la prochaine fois, et Saint Thomas d'Aquin ont fait leur propre commentaire des sentences. Et donc je cite Stancati qui a traduit l'œuvre. L'œuvre de Julien de Tolède a donc joué un rôle de trait d'union entre l'époque théologique patristique et le Moyen-Âge scolastique en matière eschatologique et a synthétisé le patrimoine des autorités bibliques et patristiques. Alors un mot sur la genèse de l'œuvre qui montre encore une autre de ses qualités. C'est que c'est le fruit d'un dialogue entre Julien et Idalius de Barcelone, donc qui était évêque à Barcelone, et ils ont discuté ensemble le vendredi saint 688, lors du 15e concile hispanique à Tolède même. Idalius avait été accueilli chez Julien. Et de quoi ont-ils discuté? Un sujet assez intéressant. C'est le statut des âmes entre l'événement de la mort et celui de la résurrection finale. Donc, il se pose la question en tant que tel. Et ça, en tout cas, ça n'avait encore jamais été mis par écrit. Idalius est passionné par la discussion et il trouve tellement génial ce que Julien dit qu'ils font venir un scribe qui note les idées principales de Julien. Et à la fin de la discussion, Idalius lui dit, écoute, tu dois écrire un livre. Il faut absolument que tu le fasses. Et alors, il va le tenir jusqu'à ce qu'il craque. Et donc, Julien promet. Parce que Idalius lui dit, mais ça ne peut pas rester que pour nous, il faut le transmettre aux autres, ce qui était pensé là. Donc vous voyez, c'est beau, c'est vraiment la théologie qui se fait ensemble. C'est fraternel, c'est dialoguel, c'est vraiment la théologie quoi. En plus, c'est fondé sur l'écriture et la tradition. Magnifique. Je presse pour ma chapelle. Alors, la difficulté, si vous voulez, c'est que Julien avait une bonne mémoire et avait cité de nombreux textes dans la discussion des pères et de l'écriture de mémoire. Et donc, Idalius voulait qu'il y ait comme un compendium qui n'oblige pas les lecteurs, comme l'avait fait Julien, à lire toute l'écriture et tous les écrits patristiques. Et on voulait aussi que cela soit facile d'accès et d'usage. Alors en discutant, je me suis rendu compte aussi de deux autres choses. En fait, ce serait quand même bien que, avant ce livre, tu en écrives un autre. Sur la mort. Ça serait quand même bien parce que ça va ensemble. On est le vendredi saint quand même. Et puis, qu'il y en a un troisième sur la résurrection des morts. Parce que le but c'était de produire en qui le lit cette œuvre une meilleure compréhension des grands thèmes de l'eschatologie du mystère de la mort à celui de la situation de l'âme après la mort du corps jusqu'au mystère de la résurrection finale des morts. Donc c'était vraiment l'idée de faire une synthèse, ça va être bref, effectivement le traité est bref. Quand on voit les sommes qu'on peut écrire aujourd'hui. Donc, se basant sur l'écriture, sur les pères de l'Église, enrichi des idées, des argumentations qui étaient le fruit de la discussion et qu'on voit aujourd'hui dans les têtes de chapitres surtout, et dans les raccords. Donc l'œuvre a plusieurs qualités. Elle est existentielle. Elle est didactique. Elle est pastorale. Elle est pratique, synthétique et brève. Et peut-être qu'il faut que j'en rajoute une qui me vient maintenant à l'esprit, c'est que s'appuyant sur les pères et l'écriture, eh bien, elle a toute la saveur des images aussi, tout en gardant le caractère synthétique. Donc on a un manuel en trois livres sur, aussi bien pour les catéchistes que pour les théologiens, et tous l'ont utilisé. Vous avez compris les trois livres, la mort, l'âme entre la mort et la résurrection, la résurrection. Alors je vous donne un bref aperçu de chacun de ces trois livres. Le premier contient 22 chapitres, parfois ils sont très brefs, hein, vraiment. Donc il débute par une réflexion sur la modalité de l'entrée de la mort dans le monde, de la raison de la peine de la mort. Il poursuit en précisant le genre de mort corporelle, il en donne trois. Il parle de son âpreté, son amertume on pourrait dire, de sa bonté aussi, c'est plus étonnant. il tient compte de la persistance de la mort alors qu'on reçoit le baptême. Et de l'action des anges au moment de la mort. Il parle aussi, là on voit bien le caractère existentiel de la peur qu'on a de la mort. Il dit, il ne faut pas avoir peur de lui, d'elle, pardon. Il donne plusieurs raisons. Et puis il termine ce livre par l'importance de la prière à l'approche de la mort. Il réfléchit à l'inhumation, puisque le lieu de l'inhumation a une importance. Et il va parler des suffrages. Voilà pour le premier livre. Le deuxième a 37 chapitres, donc c'est vraiment celui qui est le plus original. Ce qui est vraiment original, c'est que c'est la première fois qu'on en parle de manière si claire, de manière si structurée, de manière si frontale, pourrait-on dire. Et systématique. Et il le fait de telle manière que tous ceux qui vont suivre, venir après Julien Tholet, ne pourront plus du tout éviter la question. Parce que c'est tout un livre. Alors le contenu est le suivant. Il va d'abord aborder la question des différents paradis, des différents enfers. On en parle, est-ce qu'ils ont tous le même sens? C'est bien, non, en fait, voilà. Ensuite, il explique ce qui se passe à la mort. Donc, les justes vont directement au ciel. Premier cas, ceux qui n'ont pas été tout à fait parfaits sont purifiés par des peines médicinales. Et, troisième chose, les pécheurs vont en enfer. Alors, quand il dit ça, n'oublions pas qu'il le dit en citant l'Écriture et les pères de l'Église. C'est pas une invention, même si ça peut paraître tel. Suit une réflexion sur le rapport entre les âmes séparées et le feu, et aussi sur le feu purificateur. Viennent après quelques réflexions sur le rapport des âmes des défunts aux autres, qu'ils soient morts ou vivants, et enfin sur le mode de vie qu'ont les défunts. Voilà pour le deuxième livre. Le troisième, qui lui a 62 chapitres, donc c'est de loin le plus long, il commence par parler du jugement du Christ et de son avènement, puis de la résurrection finale des corps, de la condition des corps ressuscités, de la manière donc dont le jugement va s'opérer, des corps des damnés dans le feu, du sort des élus, de la conflagration des cieux nouveaux donc de la terre nouvelle, et enfin de la condition des saints ressuscités. Alors vous voyez sur la feuille de route que j'ai travaillé à établir le plan de chacun de ces livres. Je ne peux pas les aborder maintenant, c'est trop long. Mais je vais en prendre quelques points originaux, et je vais surtout prendre des points qu'on n'a pas encore tellement entendus, parce qu'il y en a plusieurs, on les a déjà vus avec Augustin. Et comme Augustin est celui que Julien cite le plus, je ne vais pas les reprendre, vous les connaissez pour une partie. Donc, pour le livre 1, il dit « L'homme fut créé capable d'immortalité et de mortalité. » Il dit « Immortel n'est pas de telle manière qu'il ne puisse pas mourir, et non pas mortel de telle manière qu'il ne puisse pas devenir immortel. » Le tout dépend de sa liberté, de son libre arbitre, c'est-à-dire de la manière dont il se situe par rapport à Dieu, est-ce qu'il obéit à Dieu ou lui désobéit. Et donc la mort, c'est la conséquence du choix de l'homme. La mort en elle-même, qui est séparation de l'âme et du corps, elle est définie, est amère et mauvaise en soi. Je pense que ce point est important. Parce que de temps en temps, on se dit, ah là, c'est magnifique, il meurt. Ben non. La mort, c'est déjà d'abord quelque chose de mauvais, et on a le droit d'en pleurer. Mais dit-il, elle possède quand même deux aspects positifs. Si on la supporte avec patience, elle libère l'âme pieuse du péché, car la peur de la faute purifie l'âme des justes quand elle quitte le corps. Deuxième aspect positif, malgré qu'elle soit mauvaise en soi, elle est bonne pour les bons, puisque quand quelqu'un qui a vraiment choisi Dieu et qui vit avec Dieu meurt, et bien il passe à la vie. Et c'est la fin de toute douleur, de toute souffrance. En ce sens, la mort est bonne. C'est vraiment passer à l'immortalité. C'est l'instrument par lequel on passe à la vie. Du coup, Julien réfléchit à cette mort et à la peur qu'elle suscite. Et Julien va dire, voilà, on comprend la mort, la peur de la mort, pardon, mais réfléchissons un peu plus. Pour préserver notre vie présente, on est prêt à abandonner beaucoup de choses. J'ai abandonné ma voiture, mon portefeuille si quelqu'un me menace. Et beaucoup d'autres choses. Et Julien dit, ben, en fait, il est plus important de craindre la mort de l'âme que celle du corps. Pour garder la vie. Mais la vie qui demeure en vie éternelle. Et donc, il ne faut pas considérer comme mauvaise une mort précédée d'une vie bonne. Car rien ne rend la mort mauvaise si ce n'est ce qui la suit. Donc vous voyez, ben en fait, si ma vie est bonne, pourquoi est-ce que j'aurais une crainte? En tant que chrétien, dit-il, donc nous ne devons pas craindre la mort, puisque c'est être avec le Christ. De plus, la mort nous libère du diable, de la tristesse, de la concupiscence, des vices de la chair, de tout ça qui peut nous séparer de Dieu. Pour les chrétiens, c'est aller vivre avec le Christ qui est la joie, c'est entrer dans l'éternité. De plus, il y a plein de personnes chères qui nous y attendent. Donc, la mort, dit Julien, est une consolation dans ce sens, et non quelque chose de terrible. À propos de la sépulture, il y avait la question de savoir si c'est plus intéressant d'être enterré dans une église, à côté d'un martyr. Et bien dit non et oui. Non, parce que franchement, la place n'a aucune importance. Mais quand on entend quelqu'un près d'un martyr, ou dans une église, ceux qui viennent après prier croient que c'est plus efficace et leur foi est plus forte. Donc, oui. Donc c'est très fin. Pas pour les morts en soi, pour la foi de ceux qui vont prier pour eux après. Je passe au deuxième livre. Donc, il dit très clairement, les âmes parfaites vont directement au ciel avec le Christ, à la mort. Ceux qui sortent dans une sainteté qui n'est pas si parfaite, pour qu'ils puissent aller au paradis, doivent subir une purification. Ça vient du fait qu'ils ont fait le bien et qu'ils ne méritent pas l'enfer, mais ils n'ont pas fait, se sont pas si éloignés du mal qu'ils peuvent tout de suite accéder à la lumière. Et puis, il y a ceux qui sont réprouvés. Alors, il dit aussi, il est quand même très conscient de la résurrection des corps. Si l'âme est déjà au ciel, comme il n'est pas réuni à son corps, eh bien, il y a quelque chose qui l'empêche, d'une certaine manière, d'aller plus loin dans l'intensité vers le ciel. Et l'aspire à retrouver son corps profondément. Alors, j'ai réfléchi aussi au feu. Il dit, est-ce que c'est un feu corporel? Alors, beaucoup, on avait dit avant lui que c'était un feu corporel, donc il est forcé de réfléchir à cette question-là. Alors, il dit, ben, non, l'âme n'a pas de corps, ce serait difficile, quelque chose de corporel la brûle. Mais l'âme voit le feu, sait ce qu'il fait, et en ce sens-là, elle en souffre. Et donc, le feu corporel, oui, la brûle. Parce qu'elle sait ce que le feu fait. Ah oui, c'est son explication, hein. Après on peut réfléchir. Voilà. Alors, il y a un feu éternel, il y a le feu purificateur qui est tout à fait différent, il ne faut pas confondre les deux. Mais il dit ce feu purificateur est beaucoup plus douloureux que n'importe quelle chose que l'homme peut souffrir en cette vie. La durée de la purification varie selon les personnes, selon l'intensité de ce qu'ils ont fait de mal. Et heureusement, ce n'est pas nécessairement jusqu'à la résurrection qu'elle dure. Ça dépend des personnes. Alors, je passe l'angle social. Donc, la prière pour les vivants, pour les morts, mais on ne prie pas pour les damnés, parce que ça ne sert à rien de toute façon. Ils ont choisi de refuser Dieu et ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et ils ne le veulent pas non plus. Et il précise que ils ne sont pas touchés par le mal des damnés. Parce que précisément, la question c'est que les bienheureux soient vraiment bienheureux. S'ils ont mal, leur béatitude en souffre. N'est plus une véritable béatitude. Voilà. Je vais déjà bien dépasser, donc je vais m'arrêter là. Même si on a encore beaucoup de choses à dire. Oui, un théologien extrêmement riche.